DW, l'arbre à palabre.
Bonjour, c'est un appel auquel on finit par s'habituer, mais qui ne se traduit toujours pas dans les faits, que les États africains arrachent leur souveraineté monétaire. Mais de quoi s'agit-il? Alors que la pandémie de COVID-19 a entraîné un déchaînement spectaculaire de moyens financiers, surtout en Occident, pour éviter ou amoindrir les effets de la récession économique, la plupart des États africains sont condamnés, encore une fois, à la main tendue. La renonciation des créanciers au service de la dette pour un an a peut-être permis à peine d'autoriser certaines dépenses, mais cela n'est qu'une goutte d'eau comparée à l'océan de besoins existants. Des économistes estiment que si les États avaient leur souveraineté monétaire, ils pourraient être plus libres dans leurs décisions. Mais qu'est-ce qui empêche cette fameuse souveraineté monétaire de voir le jour? Quelles conditions les États devraient-ils remplir? Nous en discutons aujourd'hui avec nos invités sous l'arbre à palabre, Dr Chérif Salif Si, économiste sénégalais, ancien conseiller à la présidence de la République, président du Forum du Tiers-Monde et président aussi du Forum mondial des alternatives créé par l'économiste Samir Amine. Docteur Chérif Salif Si, bonjour.
Bonjour. Bonjour Aminata, bonjour Jacques.
Voilà, Aminata Dramane Traoré, essayiste malienne, leader altermondialiste et présidente du Forum pour un autre Mali. Vous êtes aussi ancienne ministre du Mali. Aminata Traoré, bonjour.
Bonjour.
Jacques Berthelot, enseignant, chercheur en économie agricole à la retraite, également dans cette émission. Monsieur Berthelot, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Nous saluons évidemment toutes les personnes à l'écoute de ce nouveau numéro du débat Abrapalabre, au micro Fréjus Kenom. DW. Ma première question à Dr Chérif Salif Si. Alors, est-ce que, je rappelle d'abord que vous êtes signataire de cette lettre ouverte que j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, lettre ouverte d'économistes, d'environ 500 économistes qui demandent aux pays africains de s'octroyer leur souveraineté monétaire. Est-ce un appel à la rébellion des États africains pour rompre avec la politique de main tendue, avec les prêts, avec des politiques téléguidées depuis l'extérieur?
Merci beaucoup. Non, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un appel à la rébellion. Mais après avoir précisé qu'en réalité, cette question de souveraineté monétaire revendiquée sur une grande partie du continent concerne surtout les pays francophones. Les pays anglophones, on le sait, pour la grande majorité, ont leur propre monnaie. Mais c'est là pour dire aussi qu'il ne faut pas que nous perdions de vue que la monnaie n'est qu'un des leviers du développement. Même si nous militons, nous nous battons pour avoir une souveraineté monétaire qui ne veut pas simplement dire un management institutionnel de la monnaie. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est la monnaie étant un instrument social aussi, il y a d'autres dimensions de la monnaie. Donc, ce n'est pas une affaire nouvelle. C'est dès le début des indépendances que les chefs d'État africains se sont en quelque sorte rebellés, et ces chefs d'État étaient profondément mécontents et mal à l'aise. C'était en 1966. Et pendant tout ce cheminement, les organisations de la société non politique vivaient aussi cette dépendance. Il ne s'agit pas donc d'une rébellion, mais d'une démarche mûrie pour une véritable souveraineté, avoir les leviers nécessaires pour la conduite de nos politiques monétaires.
Voilà. Mais merci beaucoup pour cette première intervention. Vous avez décrit donc cette longue démarche qui a débuté dès le lendemain des indépendances. Mais pourquoi est-ce qu'on en est encore aujourd'hui à dire les mêmes choses, Aminata Traoré? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bon, comme Chéri vient de le dire, la monnaie est l'un des leviers d'un développement qui reste entravé par d'autres facteurs. Moi, je plaide sans arrêt pour l'émergence d'une pensée économique africaine cohérente et largement partagée. Largement partagée pour que nos États ne soient pas démarchés, piégés, acculés individuellement et même parfois se percevoir comme vivre des relations de compétition entre eux, quoi.
Vous avez l'impression qu'il n'y a pas encore cette pensée partagée. Il y a eu des modifications au CFA qui changent de nom. On parle d'écho. C'est vrai que rien n'est encore concret, mais cette démarche ne tend-elle pas vers ce que vous êtes en train de dire?
Mais cette démarche est l'illustration parfaite, justement, de l'art de diviser pour mieux régner. Parce que l'écho dont il s'agit et ce que l'on attendait, ce n'est pas cet écho-là. Nous, on était ici en réunion à Bamako, sur le franc CFA, justement, lorsque nous avons vu ce jour-là le président ivoirien à Paris déclarer sur le perron de l'Élysée que voilà, la question du franc CFA devait se poser autrement. Donc, ce CFA écho ne convainc pas grand monde et il illustre surtout un certain manque de solidarité entre nos chefs d'État, même si, comme Chérif l'a dit, au début des années 60, et tous conscients que sans cette souveraineté, le développement ne peut pas reposer sur un socle suffisamment solide.
Jacques Berthelot, quel est votre point de vue? On a l'impression, quand on entend Dr Chérif Salif Sy et Mme Aminata Traoré, que les Africains, en ce qui concerne l'Afrique francophone, sont un peu maintenus dans un système dont les tireurs de ficelles se trouvent en Occident. Comment est-ce que vous vous approchez le sujet?
C'est une mascarade. Enfin bon, la renomination en écho du franc CFA ne change rien à la dépendance vis-à-vis de l'euro. Hein, et c'est toujours le gouvernement français et la Banque Centrale Européenne qui vont continuer à diriger la politique monétaire de la zone UEMOA.
Même si les représentants français se retirent des instances de décision hein, de l'UEMOA.
Oui, mais comme elle se porte aussi garant de la solvabilité des pays de la zone UEMOA, et donc ça veut dire que ce sera toujours quand même le gouvernement français qui essaiera donc de faire en sorte justement qu'il n'ait pas besoin de transférer donc disons des devises pour permettre à l'UEMOA de payer ses importations. Elle va s'arranger donc pour imposer des restrictions réelles dans les dépenses des États. Voilà. C'est pour ça que la véritable souveraineté monétaire implique que la Banque centrale soit totalement indépendante hein, de l'euro, bon, qu'elle émette donc une monnaie, qu'elle fixe ses taux d'intérêt donc auxquels le Trésor va emprunter, mais auxquels aussi les banques de dépôt donc vont pouvoir gérer la monnaie de crédit. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que au sein de l'UEMOA, il n'y a pas véritablement de politique commerciale commune. Quoi. Les échanges entre les États sont de l'ordre de 10% de leurs échanges extérieurs, alors que même si la zone euro continue à appliquer en fait une politique de contrainte au point de vue donc de déficit budgétaire, de l'inflation, de l'endettement, etc. Il y a au moins quand même plus de 60% des échanges qui se font au sein de la zone euro. Ça explique quand même plus ou moins que la politique monétaire, donc elle est certes très absolument contrainte, mais que c'est encore pire dans la zone UEMOA, quoi, ou dans la zone d'Afrique de l'Ouest, où les échanges internes sont très faibles. Donc avoir une monnaie commune sans qu'il y ait d'abord, un important courant d'échange, ça ne peut pas marcher, quoi.
Oui. Chérif Salif Sy, c'est vrai qu'on parle d'un sujet un peu technique, mais vous réussirez sans doute à nous clarifier de manière terre à terre pourquoi on n'arrive toujours pas à faire le pas. Est-ce qu'il manque la technologie? Est-ce qu'il manque la connaissance? Mais je me dis en même temps qu'il y a des gens comme vous, Chérif Salif Sy, qui êtes des cerveaux, qui connaissez.
En réalité, nous faisons des pas de géants, si on regarde un peu l'histoire. Vous vous rappelez, jusqu'en 1978, toutes les institutions des deux banques centrales étaient à Paris. Moi, j'étais à Paris. Nous étions tous les jours sur le macadam. Nous nous sommes battus jusqu'à obtenir, en cette année 78, le transfert des deux banques centrales en Afrique. Tout ce qui était administrateur français a été remplacé par des administrateurs africains. Nous savions que la bataille devait être menée par étapes. Nous avons poussé la France récemment à un repli de sa présence sur les instances de décision. Je pense que c'est cela, comme cela que les choses fonctionnent. Mais c'est qu'il existe aussi des activistes du tout ou rien. Une jeunesse exacerbée, une jeunesse pressée qui veut que tout change immédiatement aujourd'hui. Et ce qui se passe effectivement, en fait, il est clair aujourd'hui que ce sont les États de l'UEMOA et de l'Afrique centrale qui accordent une garantie à l'État français et aux multinationales par ce système de libre transférabilité de leurs avoirs. C'est ça la manipulation, c'est ça l'escroquerie.
Mais l'autre maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus cette obligation de déposer 50% des réserves de change auprès du Trésor français, c'est fini.
Oui, mais les formes de la garantie existent. Les formes de la garantie existent. La technique de gestion du management qui impose aux États pauvres une orthodoxie financière que les pays en développement ne peuvent plus tolérer et que ces grands pays ne s'appliquent pas. C'est ça la question. Quand vous avez un système monétaire qui rend impossible toute politique monétaire dans les pays africains de la zone, c'est un échec total. Nous avons besoin de notre propre banque centrale. Nous n'avons pas besoin de tous ces bluffs. Une banque centrale est une banque centrale. Ici, nous avons eu jusqu'ici que des bureaux du Trésor français installés sur le territoire africain. C'est ça la vérité.
Oui, mais Jacques Berthelot, est-ce que vous croyez que la France empêche l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest et les autres de l'Afrique centrale de disposer de leur banque centrale?
Absolument, ils ne peuvent pas disposer de leur banque centrale parce que, comme il y a la garantie du Trésor français qu'il pourra donc éventuellement transférer les dollars ou les yens, etc., bon, les euros bien sûr, qui manquent à l'Afrique subsaharienne, bon, et puis ici plus spécialement à l'UMOA, une garantie qui actuellement ne donne aucune souveraineté monétaire, à l'UMOA ou à la CDAO.
Aminata Traoré, quand nous avons publié sur nos plateformes de réseaux sociaux et à la radio la lettre ouverte des économistes qui demandent la souveraineté monétaire des pays africains, nous avons eu une avalanche de réactions, certains internautes nous interpellant en disant ben, il faudrait peut-être parler de bonne gouvernance avant de nous rabâcher les oreilles avec cette affaire de souveraineté monétaire. Comment est-ce que vous répondez à une réaction de ce genre? Est-ce que bonne gouvernance et souveraineté monétaire sont interdépendantes?
C'est clair qu'il faut une bonne dose de gouvernance, mais je vous assure que à la faveur de cette crise sans précédent que le Mali traverse, moi je suis tout simplement saturé par cette notion de bonne gouvernance à toutes les sauces. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est clair que les faits de corruption sont considérables, scandaleux, et que les laissés pour compte ont toutes les raisons d'exiger que l'Afrique gère autrement. Moi, ce qui me gêne, c'est que, quelque part, on fait le jeu à ce moment-là de ceux qui n'ont pas du tout envie qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, qui sont ces questions économiques, monétaires, et géostratégiques, et alimentaires, énergétiques, écologiques, il n'y a rien de tout ça dans le débat dans nos pays. Et qui plus est, comme Jacques vient de le dire, la garantie du Trésor français est aujourd'hui la corde qui permet à la CDAO de pendre le Mali. Parce que les fameuses sanctions sont également financières. On est coincé aujourd'hui, et précisément du fait de ce pouvoir considérable que la France s'octroie de tenir nos dirigeants. Mais nous devons aller vite et plus fort dans l'éveil de cette conscience et puis de cette interdépendance des différents aspects. Il faut de la bonne gouvernance, mais il ne faut vraiment pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que les desseins de la France et de ses alliés en guerre contre, soi-disant, contre le terrorisme en Afrique, ces desseins-là, le pillage déjà qui a lieu, relève aussi de la mauvaise gouvernance internationale, économique, politique et monétaire au plan international.
Chérif Salif Sy, à entendre un peu vos explications, on a l'impression qu'on assiste à un braquage où les Africains sont des victimes impuissantes, puisque vous indiquez dans votre lettre ouverte que cette absence de souveraineté monétaire implique aussi une absence de souveraineté alimentaire, une absence de souveraineté énergétique. Mais comment faire?
Mais d'abord, il faut préciser que c'est encore plus grave que cela, parce qu'on ne peut pas, à mon avis, étudier la dépendance monétaire sans tenir compte de la survivance des dispositions fondamentales du pacte colonial. C'est ça aussi qu'il faut faire percevoir. Le tissu économique et les relations de coopération continuent à permettre la libre transférabilité. La libre transférabilité dans des espaces où 90% de ce qu'on peut qualifier d'entreprise industrielle sont des filiales de sociétés mères basées à l'extérieur. Un tissu économique étant dominé de cette façon par des entreprises étrangères, cela bloque l'émergence de banques véritables de développement. Puisque les entreprises dominantes fonctionnent sur la base de la simple coopération et des transferts entre sociétés mères et filiales. C'est-à-dire qu'en tout fond, donc, cela aboutit à la situation où il n'existe pas de banque qui finance l'entreprise sur le long terme. c'est des opérations court terme que les banques commerciales sur place font. Mais c'est tous ces mécanismes qu'il faut prendre ensemble pour comprendre le sens de la lutte. Il y a résistance et lutte. Et il y a des gains palpaliers et dans nos, il y a des flux et des reflux dans nos victoires. Mmh. C'est ça la vie. Mais ce qui est plus grave, c'est que il faut pas voir simplement le fait que les trésors, les fonds ne seront plus en France ou ailleurs. Et ça, on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore. On peut mettre où on veut, c'est ce qui est dit. Mais le problème, c'est les deux notions qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'un garant financier et qu'est-ce qu'un garant d'exécution? Surtout le garant d'exécution qui s'engage lorsque l'État est défaillant. Ça, ce sont les dispositions de l'accord qui sont écrites. En cas de défaillance dans les engagements, la France va sévir. Elle peut bloquer les importations. Et il y a tout cela. Maintenant, pour nous, quelle perspective? Les États avaient signé quand même en 83 un accord pour créer une monnaie de la CEDEAO. Moi, je crois que malgré les difficultés actuelles, les tentatives de torpillage de ce projet par la plupart des chefs d'État actuels, il faut continuer, à mon avis, à soutenir ce projet, mobiliser nos organisations dans les sociétés non politiques et continuer le combat. Si on considère les victoires qu'on a eues jusqu'ici, la France, elle est acculée. Nos chefs d'État sont acculés, il faut continuer à mettre la pression et nous arriverons à cette souveraineté monétaire pour passer, et Aminata l'a bien dit, passer vraiment à d'autres aspects. La notion de gouvernance, elle est tellement farfelue. Gouvernance, coopération décentralisée, tout ça, c'est des instruments pour poursuivre une manipulation organisée de la dépendance de nos États par des partenaires qui ne veulent pas lâcher prise sur le contrôle de nos économies.
Jacques Berthelot, qu'en est-il de la Chine, qui est un acteur très présent sur le continent et qui est peut-être un des plus grands créanciers des pays dont nous parlons? Est-ce que cet endettement vis-à-vis de la Chine bloque également l'accès à la souveraineté monétaire?
Je ne pense pas trop, parce que la Chine elle-même, justement, elle a véritablement une souveraineté monétaire totale. Et donc, bon, évidemment, à court terme, elle veut continuer à exporter de plus en plus, à étendre sa route de la soie, bon, à exporter de plus en plus, à faire des travaux, malheureusement, d'ailleurs, en envoyant ses propres ouvriers pour faire ses travaux d'infrastructure. Mais la Chine aurait difficilement la possibilité de, sans se contredire fondamentalement, en empêchant la souveraineté monétaire des États d'Afrique. Et par ailleurs, donc, ses intérêts géopolitiques à long terme font qu'elle n'a pas forcément intérêt à avoir, disons, l'Afrique s'enfoncer encore un peu plus dans la misère. Si elle veut pouvoir justement exporter davantage à long terme, elle est peut-être plus intelligente que l'Europe ou que les États-Unis, donc qui veulent imposer une rentabilité à court terme de leur placement. Donc c'est un peu l'idée que je me fais. La Chine étant gouvernée, d'une façon étatique, et non pas à la solde du capital privé comme le sont les autres pays de la triade, elle a peut-être une meilleure prise en compte de ses intérêts commerciaux, même à long terme.
Merci. Aminata Traoré, la Chine, qu'est-ce que vous en dites? Ces pays avec lesquels les États africains étaient au même niveau il y a des décennies, mais qui ont pris un bond extraordinaire, comment faire pour que la dette ne vienne pas compromettre non plus, si elle ne le fait déjà, cette souveraineté monétaire dont nous parlons?
Bon, moi, je ne fais pas de parallèle en termes d'évolution entre la Chine et l'Afrique. Ce n'est pas du tout la même histoire. Ça n'a strictement rien à voir en termes de dépendance. En tout cas, moi, j'insiste pour que cette année 2020, vraiment, c'est une année de tous les dangers, qui est aussi celle de la commémoration des indépendances de la plupart de nos États, soit aussi l'occasion d'une réflexion sur nous-mêmes. Cette souveraineté que nous appelons de tous nos voeux depuis les années 60, ça va dépendre d'une réflexion sur nous-mêmes et pas que les États, pas que les dirigeants. Qu'est-ce que les Africains ont envie de poser comme acte de refondation de nos États et de nos économies en termes d'offres et de demandes et
la consommation. Vous avez dit tout à l'heure, Aminata Traoré, qu'on faisait le jeu de ceux qui nous empêchaient d'aller à l'essentiel. Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants au niveau africain mettent le curseur, peut-être concentrent leur énergie sur autre chose?
C'est une question de rapport de force. Moi, je pense que si nous, nous sommes suffisamment organisés comme société civile, comme électeurs, et nous pouvons discipliner les dirigeants parce qu'ils sont obligés d'être à l'écoute de leur base, mais à condition que la base sache poser les questions. Parce que si la base entend par développement aujourd'hui, le fait d'avoir deux ou trois téléphones, chacun son écran plat, ce que nous consommons et que la plupart nous vient aujourd'hui de Chine pour inonder nos marchés. Les Américains disent « you are what you eat ». Vous êtes ce que vous mangez, non pas seulement au plan sanitaire, mais aussi au plan économique. La révolution, la véritable révolution va venir de cet état d'esprit. Mais cette étape-là va dépendre des femmes et des jeunes. Les femmes et les jeunes sont manipulés aujourd'hui, totalement embourbés dans des questions électorales. On ne s'adresse à eux qu'en tant que force et de changement, et entre guillemets, politique, c'est-à-dire c'est des faiseurs de rois. Et ce sont cette jeunesse-là, c'est cette population africaine bien informée, consciente des enjeux de sa consommation, qui peut changer aussi la structure de la production.
C'est bien ce que je disais tout à l'heure, Dr Chérif Salif Sy. Est-ce que vous voyez ça de la même manière? Est-ce que vous pensez qu'on ne va pas à l'essentiel et que l'essentiel de l'énergie, du peu d'énergie qui est présente, est consacré à de la politicaillerie, à du débat politicien, mais pas à des choses de long terme?
Mais je pense exactement comme Aminata. Moi, je pense que les leaderships politiques en Afrique, ceux qui gouvernent, je veux dire, donnent l'impression d'être leaders de grands pays développés dont le souci sont de petites réformettes et de navettes entre les grands sommets mondiaux. C'est ça la réalité, c'est ce que nous percevons. Nous les aimons bien, certains sont des amis, certains sont des jeunes frères, certains sont des aînés, mais c'est ça la réalité. Et le véritable objectif, elle l'a dit, refonder ce continent à partir d'une conscience historique bien installée et sortir de ces manipulations. Prenons le cas de la Chine. Sur l'ensemble de la dette africaine, 771 milliards de dollars, la part de la Chine ne représente que 17%. C'est de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, 29%. Les investisseurs privés, Union européenne et autres, c'est 40%. Et le reste, c'est le Club de Paris, c'est de la diversion. Nous devons reconsidérer les choses pour refonder État par État tout ce continent.
Jacques Berthelot, est-ce que vous êtes du même avis des acteurs qui sont quelque part et qui ne veulent pas que l'Afrique sorte de cette relation qui la contraint à n'importer que de la pauvreté? Est-ce que vous êtes de ce même avis, Jacques Berthelot?
Je pense que la racine de tout ça qui a été bien décrite par Chérif et par Aminata, c'est qu'en fait, malheureusement, les États d'Afrique ne sont pas démocratiques, quoi. C'est-à-dire que, bon, sans vouloir copier la démocratie à l'occidentale, il n'empêche que les États sont menés, disons, d'une façon, comment dirais-je, donc sans consultation véritablement de la société civile, et notamment, effectivement, des femmes et des jeunes, mais plus largement aussi des organisations syndicales, agricoles ou non agricoles, donc qui n'ont absolument pas maille à partir dans tout ce qui se passe. Et il faudrait aussi incidemment dire que malheureusement, l'Union africaine, avec son projet de grande zone continentale de libre-échange, ne voit son salut aussi que dans le maintien d'une dépendance du marché mondial, donc en continuant à essayer de jouer dans la cour des grands, en disant avec nous, notre zone de libre-échange, c'est la plus forte du monde parce que nous avons 55 États qui y participent. Bon, mais tout ça avec un programme qui simplement de s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales où l'Afrique va rester de plus en plus, marginalisée, car produisant des produits sans véritablement sans valeur ajoutée, faute de s'attaquer aux racines justement réelles, hein, qui est la faiblesse des infrastructures, la dépendance alimentaire croissante,
le déficit énergétique,
etc.
Et donc, Aminata Traoré, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que ce sont des choses qui passent dans votre tête aussi, ce déficit énergétique qui empêche la mise en place d'industrie pour apporter de la valeur ajoutée aux matières premières? Donc, c'est apparemment le poids le plus lourd, hein, qui pèse quand on discute de ces contraintes qui empêchent d'aller vers la souveraineté monétaire.
Non, c'est clair, mais moi je me dis, ces 6 derniers mois avec la crise du coronavirus, il y a une nouvelle donne, ce que nous avons toujours, notre slogan, un autre monde est possible, plus d'écologie, plus de social, et revenir à l'humain. Moi mon souci est à partir d'un pays comme le Mali, je me pose la question de savoir à quand la fin des guerres de convoitise, quoi. Et c'est pour ça que je me réjouis également, je fais la relation avec ce mouvement planétaire de Black Lives Matter, que les Africains devraient prendre au sérieux, parce que tout cela nous arrive aussi du fait du racisme systémique.
Madame Aminata Traoré, la seule femme de ce panel, on s'arrête donc sur ces propos qui ouvrent notre débat que nous ferons sur cette même antenne de la Deutsche Welle. Merci à tous les trois, Aminata Draman Traoré, essayiste, ancienne ministre malienne, leader altermondialiste, docteur Chérif Salif Sy, économiste sénégalais, Jacques Berthelot, enseignant-chercheur en économie agricole à la retraite. Merci à nos auditeurs d'être restés à l'écoute pour suivre cette émission. Fréjus Kenom à l'animation. Retrouvez le programme francophone de la Deutsche Welle la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabre.
Merci beaucoup aussi, M. Fréjus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, à bientôt. Au revoir.